Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le beau et la laideur des enjeux politiques ou comment la marchandisation de l'art serait en train de liquider un des derniers espaces du sensible. C'est le parti pris de l'auteur de Ce qui n'a pas de prix chez Stock. La philosophe et poète Annie Lebrun nous rejoindra à partir de 12h55. Avec elle aussi, et avant cela déjà, il sera question de poésie aujourd'hui, comme lieu possible de tous les communs, comme possibilité de s'échapper du réel, beau ou laid, deux lectures possibles, un dialogue ouvert. Jean-Marie Glaise, auteur de Trouver ici, et Cécile Coulon pour Les Ronces sont nos invités jusqu'à 12h30. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Elle voudrait que la poésie soit aussi naturelle à ceux qui l'entourent que le geste d'un inconnu qui vous offrirait un cornet de frites avant de disparaître, avec cette facilité improbable des moments qui n'auraient pas dû être, qui furent tout de même mal fichus, débordant de grâce et de paroles impossibles. Cécile Coulon, bonjour.
Bonjour.
Romancière avec Le Roi n'a pas sommeil ou encore Trois saisons d'orage chez Viviane Lamy, prix des libraires l'an dernier. Et aujourd'hui, poète, votre premier recueil vient de paraître au Castor Astral. Il s'intitule Les Ronces. À vos côtés, symboliquement en tout cas, un poète aguerri. Il en écrit et il l'enseigne, ancien directeur du Centre d'études poétiques à l'ENS Lyon, professeur émérite de littérature. Il publie aujourd'hui « Trouver ici, relique élisière au seuil » qui s'ouvre sur une politique des ronces. Jean-Marie Glaise, bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci à ton confrère de France Bleu de vous accueillir aujourd'hui pour vous permettre d'être avec nous. Vous avez tous les deux troqué les roses contre les ronces et ça pique un peu. Pourquoi, Cécile Coulon ?
Pour moi, les ronces, il y avait l'image du bouquet de ronces que je trouvais très très belle. Quelque chose qui est à la fois très violent, qui fait mal, mais une fois qu'on a passé la douleur, on se rend compte que c'est très beau, que ça protège ce qu'il y a derrière, que ça protège les fruits, et j'ai découvert en plus qu'on pouvait faire du miel de ronces, et je trouvais ça évidemment extrêmement gourmand et poétique comme image.
Vous en offrez souvent des bouquets de ronces ?
J'essaye, mais ça fait pas plaisir aux gens, généralement.
Jean-Marie Glaise, pourquoi les ronces ?
Disons que la politique des ronces, c'est deux choses, les ronces, pour moi. Ce sont d'abord les ronces qui sont celles que nous trouvons sur notre chemin, enfin celles qui nous font obstacle, qu'il nous faut franchir pour, par exemple, trouver ici. Enfin, quand je dis trouver ici, ça signifie chercher ici, se mettre en chemin vers quelque chose qui serait ici. Donc ces ronces, c'est ce qu'il y a de blessant pour nous dans le réel, par exemple socio-politique, socio-économique, etc.
Alors, comment trouver son chemin justement dans cet environnement un peu hostile ?
Mais les ronces, c'est aussi ce que nous faisons pousser. Enfin, j'utilise cette formule un peu paradoxale, ce mot d'ordre un peu paradoxal, faire pousser des ronces. C'est aussi celle que nous faisons pousser, je dirais, contre l'ordre établi. Alors, par exemple, ce sont nos grèves, nos occupations, nos blocages, etc. Mais aussi bien notre écriture. L'écriture, l'action restreinte et symbolique d'écrire. Les ronces, ce sont nos armes de notre résistance ou de notre réponse, justement, à ce réel qui nous blesse. Voilà. Je dirais qu'il y a deux sortes de ronces où ce sont les mêmes ronces, mais elles ne sont pas disposées de la même façon. Et c'est comme ça que je les conçois. Et donc, l'écriture, pour moi, d'une certaine manière, c'est une forme de... Écrire consiste à faire pousser, d'une certaine manière, de faire pousser des ronces.
Et des mots pour... débroussailler la route. C'est un peu un parcours du combattant que vous menez là, Jean-Marie Glaise.
Pour ouvrir la route, oui.
Au-dessus des grilles, au milieu des lisières, entre le talus ou les talus et les fougères, vous cherchez assurément dans cet ouvrage, dans ce recueil de poésie, trouver ici votre voie. Mais pour trouver, encore faut-il être à la recherche de quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez encore, Jean-Marie Glaise ? Est-ce que vous poursuivez une route ou est-ce que vous avez le sentiment quand même, avec ce recueil, de clôturer un cycle entamé.
Je m'insurge un peu, mais sans enfin, doucement contre le mot recueil, parce que là, vraiment, il ne s'agit pas d'un recueil, mais d'un livre construit, voilà, avec des chapitres, etc. C'est un livre qui est le 8e volume, en effet, d'un cycle qui a commencé en 1990 avec un livre qui s'intitulait L'aimant, toujours dans la même collection Fiction et compagnie, et qui est en une sorte de très long récit troué, discontinu, une tentative d'approche, non pas pour s'éloigner, enfin il ne s'agit pas pour moi, par la poésie entre guillemets, de m'éloigner du réel ou de m'échapper, d'échapper au réel, mais plutôt de m'en approcher au plus près, quitte effectivement à être quelque peu égratigné, ou à moi-même égratigner l'autre, en fait, ou les autres, enfin, ou ceux qui sont en face. Donc, pour moi, c'est un acte, ou une série d'actes, de gestes, que je qualifierais bêtement de résistance contre un certain réel ambiant qui m'offusque, et voilà. Et alors, contre lequel il y a à la fois l'action, je dirais, entre guillemets, politique ou néo-politique ou alter-politique à l'extérieur, et puis l'action d'écrire, l'action de l'écriture elle-même. Voilà, c'est pour moi ça la poésie en fait.
Cécile Coulon, vous avez choisi de placer les ronces, vos ronces, dans le temps de l'urgence. L'urgence à raconter, puisqu'on parle de forme et de ce livre en 11 chapitres de Jean-Marie Glaize. Vous pratiquez une poésie qui tend parfois, plus souvent, vers la narration. Vous alternez les formes entre des formes presque récitées, narratives, romanesques d'une certaine manière, d'autres beaucoup plus poétiques, axées comme telles. On en lira quelques extraits si vous le souhaitez. Mais qu'est-ce qu'on confie de soi à des formes brèves qu'on ne confierait pas au roman?
Je pense qu'on confie l'essentiel, c'est-à-dire le roman, c'est un mélange de la vie qu'on a vécue, de celle qu'on aurait voulu vivre et de celle qu'on voudrait vivre plus tard. La poésie, c'est tout ce qui nous a échappé et ce qu'on essaie de rattraper. Donc c'est quelque chose d'extrêmement nécessaire, c'est quelque chose d'extrêmement violent aussi. C'est effectivement une forme de résistance, mais je pense que c'est même quelque chose qui va au-delà de l'ordre établi. C'est qu'est-ce qui reste de nous une fois qu'on a été sage ou désobéissant, qu'est-ce qui reste de nous une fois qu'on a fait ce qu'on pensait être la bonne chose ou la mauvaise chose, et c'est des miettes. C'est ces fameuses ronces, justement. Alors, c'est le plus brut de soi-même, peut-être le plus inavouable aussi, parfois le plus honteux, mais en tout cas le plus honnête et le plus sincère.
Est-ce que c'est un geste politique aussi pour vous, un territoire poétique et politique pour Jean-Marie Glaize? Il n'y a de vraiment politique que ce qui surgit de la vie et fait de la vie une réalité déterminée, orientée, écrivez-vous en ouverture de ce livre, Jean-Marie Glaize. Le poète Olivier Barbaran, auteur de Ode dérisoire et autres poèmes chez Gallimard, directeur de la publication de l'œuvre poétique d'Aragon dans la bibliothèque de la Pléiade, revenait sur ce caractère politique de la poésie.
Le fait que la poésie se greffe sur tout dans la vie du moment que quelque chose se passe, au moment où la vie n'est plus une sorte d'existence plate et aplatie, mais qu'il s'y passe quelque chose. La nature de l'émotion ou la nature de ce qui s'est joué n'a pas à rentrer en ligne de compte. Qu'il s'agisse d'une émotion née d'un événement collectif et qu'on appellerait politique, ou qu'il s'agisse d'une émotion née d'une contemplation d'un visage dans le métro, dans tous les cas, il faut que la poésie fasse place. Simplement, j'ai constaté dans ma propre pratique que les pièges, bien connus désormais, mais les pièges d'une évocation du politique ou de l'historique sont souvent très grands. Sans doute, y en a-t-il aussi pour les pièges de l'évocation du désir, hein. À chaque fois, il y a un des maîtres mots, mais sans doute sont-ils, à mes yeux, plus grands en ce que la facilité d'une dimension sans doute peu exploratoire, la conviction qui préexiste à, ou quand il n'y a pas de conviction qui préexiste au texte, quelque chose comme une sorte de bon sentiment, où je n'aime pas sortir d'un texte que j'ai écrit avec l'idée que j'étais du côté du bien et que j'ai bien dénoncé les méchants. Je pense que le poème là ne sert strictement plus à rien, et en revanche, il témoigne assez rapidement d'une réception, et qui est la réception dont je ne veux pas. C'est-à-dire la réception applaudissant de ceux qui se retrouvent. Il faut que le poème permette de créer quelque chose comme un trou et surtout pas quelque chose comme une fusion.
Un trou et non pas une fusion, Cécile Coulon. Est-ce que vous vous interrogez aussi sur la réception de vos mots?
Oui, sinon je ne les publierai pas. Ou en tout cas, si j'avais pas envie que de les transmettre, si j'avais pas envie de les partager, je ne serais pas là, en tout cas. Je me pose la question de la réception, et quand il s'agit de poésie, c'est très différent par rapport au roman. Parce que le roman, on a 300 pages pour savoir si on va suivre ou non un personnage. La poésie, on a parfois deux lignes, voire une seule ligne, voire un titre. Et il y a cette question où on se dit, est-ce que des lecteurs vont me faire confiance ? Est-ce que certaines personnes vont faire un pas de côté ? Je pense que la poésie, c'est tout ce qui se trouve dans le fossé de la route très droite de l'édition en France. La poésie, on est obligé de se tourner, obligé de s'arrêter, on est obligé de se baisser. Et ça fait un peu mal aussi. Ça demande une extrême concentration, une extrême force de la part des lecteurs pour s'y pencher. Alors oui, c'est un trou dans lequel je veux que mes lecteurs tombent, en tout cas.
Ça fait un peu mal et en même temps, vous la décrivez parce qu'à travers vos mots, il y a aussi cette quête de poésie et de compréhension de ce que la poésie nous fait comme quelque chose d'assez délicat qui laisse une trace parfois légère. Vous dites « j'en suis arrivée à la conclusion suivante dans la partie ». Un poème, c'est quelque chose d'éphémère et joli comme la signature d'un doigt sur la buée d'une vitre.
Oui, c'est quelque chose de très joli et cette signature sur cette vitre, c'est pour envoyer un message à quelqu'un ? Généralement, c'est pour que quelqu'un qui est de l'autre côté de la vitre voit ce qu'on a envie de lui dire ou envie de lui écrire ou de lui transmettre. C'est quelque chose de beau. Parfois aussi, ça peut être le souvenir d'une caresse, le souvenir de la main qui passe sur la peau, un petit mot qui est resté dans un livre mais qui s'est effacé, mais dont on devine encore les lettres et les contours. Mais quand même, il y a quelque chose d'extrêmement douloureux là-dedans. Ce qui ne veut pas dire que c'est désagréable.
Jean-Marie Glaise, vous, votre poésie, c'est un message que vous envoyez à un ou à une ou à un collectif?
Oui, alors moi j'ai un petit problème par rapport à, disons, ce type de conversation parce que j'ai l'impression de ne pas écrire de poème. Je n'entends pas l'écriture comme une écriture en poème, d'une certaine manière, c'est-à-dire en, disons, ces petits objets définitifs ou éphémères et qui s'inscriraient sur la vitre, etc. Je n'arrive pas à m'imaginer la poésie comme ça. Disons que pour
vous
moi,
écrivez en quoi alors ?
Il y a ce chemin d'écriture. En quoi, c'est-à-dire en un français dévié, si vous voulez, si vous m'interrogez sur ma langue. Qu'est-ce que je peux dire ? Est-ce que je m'adresse ? Je pense que l'écriture, elle est toujours, en effet, c'est une situation paradoxale où on est infiniment seul, radicalement seul, et en même temps, cette solitude, c'est une solitude adressée, effectivement. Mais alors, adressée à qui ? Bien entendu, on ne sait pas. Un certain nombre de romanciers, disons, qui savent ce qu'ils font, ils s'adressent à un public qu'ils connaissent ou qu'ils croient connaître ou qu'ils croient viser. En ce qui nous concerne, qui sommes plongés dans des gestes d'écriture un peu insaisissables ou un peu difficiles à définir, y compris, je dirais, y compris génériquement, ça n'est pas la même chose. Nous ne connaissons pas ce public. Nous nous adressons nécessairement à quelqu'un, nous disons quelque chose à quelqu'un, mais ce quelqu'un, il est invisible, évidemment, complètement invisible. Et cette situation est très particulière, très déstabilisante, très singulière.
Il y a l'adresse, Jean-Marie Glaise, mais il y a aussi la conversation. Quels sont les auteurs avec lesquels vous avez envie de dialoguer aujourd'hui encore et qu'on retrouve d'ailleurs dans ce livre trouvé ici ?
Vous parlez d'écrivains d'aujourd'hui, eh bien, bien entendu que je m'intéresse aux écrivains d'aujourd'hui. C'est pourquoi je publie une revue qui s'intitule, que j'ai créé une revue dans les années 90 déjà, qui s'intitule Gnoc, qui est un mot emprunté à Francis Ponge. Et donc Francis Ponge est un de ceux auxquels je me suis dès longtemps adressé de son vivant. Et au-delà de lui, bien entendu, cette revue, elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour essayer de proposer des formes d'écriture autres, disons après la poésie, si l'on veut, dans la mesure où un autre de mes repères théorique et pratique, c'est Denis Roche qui a créé la collection Fiction et compagnie, et auquel j'étais évidemment très attaché par l'amitié, et l'amitié d'écriture et l'amitié théorique. Et donc, d'une certaine manière, j'ai travaillé aussi, puisque vous le signaliez tout à l'heure, comme étudiant ou comme directeur de labo à l'ENS de Lyon, à essayer de comprendre ce qu'il en est de ce geste poétique après la poésie, la post-poésie d'une certaine manière. Voilà dans quoi je suis. Et je dirais, enfin, étant donné la difficulté de l'adresse, cette difficulté que j'évoquais tout à l'heure, j'essaie de concentrer mon attention non pas sur cet autre invisible auquel de toute façon je m'adresse, mais sur la réalité elle-même, sur le monde objectif, sur le monde qui m'entoure. C'est la raison pour laquelle, par exemple, un des mots d'ordre auxquels j'essaie de parvenir, c'est que je répète un peu dans beaucoup de mes livres, c'est j'utilise pour écrire les accidents du sol. Ces accidents du sol, eh bien, dans mon déplacement permanent, c'est le fait d'essayer de tenir compte du terrain, des contextes, des irrégularités du réel, de ce qui survient, de ce qui s'interpose, des obstacles, disons des circonstances. J'essaie d'approcher une écriture qui serait une écriture factuelle et circonstancielle, si vous voulez, et actuelle, factuelle, circonstancielle. Voilà un peu les bornes dans lesquelles je situe mon action d'écrire, mon action restreinte, si je puis dire.
Votre écriture, Cécile Coulon, c'est aussi ce qui vous distingue des autres. Vous le racontez, j'ai eu dans ma jeunesse la possibilité du langage, hein, cette possibilité qui vous a été ouverte par les livres qui vous entouraient. Je suis restée là comme tant d'autres avant moi. Eux n'ont pas gémi, eux n'ont pas écrit. L'écriture est une force.
Je pense que c'est à la fois une force et en même temps peut-être une grande responsabilité. C'est quelque chose... Au départ, je pensais que c'était quelque chose que je portais sur mon dos, et en fait, je me rends compte que c'est l'écriture qui me porte sur son dos, et c'est très agréable. Et en même temps, on sent qu'on pèse lourd sur tout ce qui a été écrit et sur tout ce qu'on écrit aussi. Et peut-être que mon rapport à la poésie est un rapport peut-être pour revenir vers une forme de légèreté, c'est-à-dire, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'essentiel, c'est-à-dire débarrasser le langage écrit de tous les codes possibles. Et s'autoriser cette liberté, savoir qu'elle a que les limites de cette liberté sont nos limites, et c'est pas les autres qui nous les posent. Et puis il y a une phrase de Chrétien de Troyes que j'aime beaucoup qui dit qu'on n'est que des nains sur des épaules de géants. Je pense que c'est le cas. Et pour l'instant, je suis encore plus petit qu'un nain sur l'épaule des grands géants. Et c'est vrai que j'ai vraiment cette sensation d'avoir eu cette possibilité du langage. Et pourtant plus je grandis, plus je vieillis, plus j'ai aussi une sorte de vertige à penser que j'arrive moins à parler et plus à écrire. C'est-à-dire que plus j'écris, moins je suis capable de tenir des conversations. Moi, je suis capable de parler, tout simplement. Il y a un langage intérieur qui a pris le dessus sur le langage extérieur.
Mais vous pourriez plus concevoir une vie sans écriture aujourd'hui ?
Je pense que j'en serais incapable, ou alors il faudrait que j'écrive avec mes pieds, peut-être, je ne sais pas. Ou alors ce serait une longue, très très longue mélodie, et une très longue et très triste mélodie intérieure.
Il n'y a pas de plus grand malheur sur Terre que celui qui n'a pas de poème écrit, extrait de Les Ronces de Cécile Coulon, qui paraît au Castor, Astral, à nos côtés également Jean-Marie Glaise, pour trouver ici Relique et Lisière, qui paraît au Seuil. Ils sont nos invités jusqu'à midi et demi.
Coupé, mamie, il est l'heure de rentrer.
Jean-Louis Murat, Les Ronces, c'est quelqu'un de chez vous ou plus ça, Cécile Coulon?
Ah, tout à fait, c'est quelqu'un de très chez moi.
De très chez vous.
Ou alors c'est moi qui suis quelqu'un de chez lui.
De très chez lui. Et oui, et ici ou là, quel lieu, quelle géographie avez-vous choisi pour cette expérience du réel et du sensible l'un et l'autre qu'est la poésie? On pourrait parler de Tarnac, en Corrèze, pour vous, Jean-Marie Glaise, auquel fut déjà rattaché l'un de vos précédents recueils, Tarnac,
merci.
Un acte préparatoire, paru en 2011. Un village que vous racontez, marqué par les combats de la résistance, un territoire poétique et politique, ça c'est le vôtre, Jean-Marie Glaise, le vôtre, Cécile Coulon, c'est Esaüt.
Esaü.
Il ne faut pas prononcer, je ne connais pas bien mes villages dans la Drôme. Dont vous dites le visage endormi de la France et les soleils superbes qui s'écrasent en bouquets sur les falaises d'Esaü où nous aurions voulu rester. Il y en a beaucoup de mots qui reviennent avec cet ancrage qui vous correspond l'un et l'autre. Pourquoi ce morceau de France, Cécile Coulon?
Parce que c'est sans doute le morceau de France qui m'échappe le plus. Et plus j'y vais, moi j'ai l'impression de le connaître. Et je trouve ça paradoxal, étrange et très beau. Et la poésie se nourrit de paradoxes, d'étrangeté et de beauté, donc ça tombe bien. Et il se trouve aussi que c'est un lieu qu'on ne peut atteindre qu'en marchant longtemps. Et qui est sans cesse éraflé, abîmé, soit par les orages, soit par des chaleurs fortes. Et c'est un lieu qui est complètement façonné par sa position géographique. Comme beaucoup d'autres, mais je ne connais pas les autres, je ne connais qu'un peu celui-ci. Et il se trouve qu'à chaque fois que j'y monte, puisque c'est en hauteur, un poème jaillit. Je pense que c'est une façon de m'accueillir, c'était un cadeau de bienvenue. Et à chaque fois que j'en redescends, il y a une tristesse absolue qui s'abat sur les heures qui suivent, sur les jours et les semaines qui suivent. Et j'avais envie d'essayer en tout cas de comprendre pourquoi. Pourquoi ce village-là et pas un autre ?
Tarnac, pour vous, Jean-Marie Glaise, en quoi est-ce un territoire poétique ?
Ah, je ne sais pas si c'est un territoire vraiment poétique. C'est un territoire en tout cas silencieux, de solitude et en même temps un lieu où s'est imaginé dans la période récente. Parce que, évidemment, c'est un lieu qui pour moi est un lieu d'enfance. Le plateau de Mille Vaches, la bruyère, les fougères, la forêt. Et en même temps, c'est un lieu qui a été revivifié en quelque sorte dans la période récente par une communauté qui s'est installée là. Et vous avez entendu parler de l'affaire, entre guillemets, de Tarnac. Ce sont des gens qui se sont installés en communauté dans le village et autour du village pour susciter des formes de vie nouvelles et pour imaginer en quelque sorte au cœur de la forêt d'autres façons d'être ensemble, de vivre ensemble, de travailler ensemble, de penser ensemble, etc. Donc Tarnac, c'est pour moi une zone d'autonomie active, une zone d'autonomie provisoire peut-être, mais voilà, c'est cela. Et c'est cet espace de recueillement aussi, de méditation et de contemplation qui est propice à cette façon de pratiquer silencieusement le langage qu'est l'écriture. J'entendais tout à l'heure que notre ami Des Ronces disait que plus elle écrivait, moins elle avait envie de parler. Moi, c'est tout à fait l'expérience que j'ai faite. Bien entendu, le langage oral, je veux dire l'oralité, là, voilà, a été d'une certaine manière mon outil de travail, hein, comme enseignant, etc. Mais j'ai bien compris que rien d'important ou de sérieusement solide ne s'accomplissait oralement, enfin dans l'improvisation de la conversation, etc. Il y a une certaine inconsistance dont j'ai très 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 conscience dans le propos oral et au contraire, évidemment, lorsque on en revient au silence de l'écriture ou à l'écriture silencieuse, cette façon qu'a le langage de se taire à travers une gestuelle, une chorégraphie spécifique qui est celle de l'écriture. Alors là, évidemment, voilà, je veux dire, Eternac, pour moi, c'est cela. Hein. C'est le lieu même de l'écriture. C'est le lieu matriciel, en quelque sorte, pour
Alors,
moi, évidemment.
L'écriture fait poésie. Cécile Coulon, vous serez à la maison ou de la poésie ce soir pour une lecture musicale. On n'a pas la musique, mais on peut avoir, si vous le souhaitez, si vous l'acceptez, la lecture.
Bien sûr. Je vais lire un poème qui s'appelle « Difficile », qui est difficile aussi. Je veux te dire que c'est difficile de construire quelque chose de nouveau dont tu ne fais pas partie. Ce n'est pas ta faute, simplement je ne suis pas assez solide pour nous porter, nous deux. Je veux te dire que c'est difficile d'admettre que je t'aime, mon amour pour toi est tenace et silencieux. Nous nous ressemblons trop. Nous avons les mêmes façons d'être furieux, nous avons les mêmes façons de ne pas répondre, nous avons les mêmes façons de disparaître, et nous sommes, de la même manière, adorablement impertinents et si mignons et drôles, évidemment. Je veux te dire que c'est difficile de faire comme si tu n'existais pas. En vieillissant, je sais que mes peurs vont m'aveugler, que je serai paralysée d'angoisse, incapable de prononcer certains mots, incapable de revoir certaines personnes, incapable de m'abandonner à certaines émotions, incapable de tant d'actes qu'il faudrait un autre poème pour les lister tous. Alors j'écris ces choses-là pour le jour venu me rappeler que j'ai eu dans ma jeunesse la possibilité du langage. Je veux te dire que c'est difficile de t'aimer comme je t'aime, sans un mot, sans un geste tendre, avec cette flaque suppliante au fond des yeux et cette rage au bord des lèvres. Je ne retournerai pas dans nos moments. Maintenant que je suis presque une bonne bête domestique, tout ce qui se trouve de l'autre côté de la barrière me fatigue d'avance et je regarde ce paysage un peu gris où soudain ton sourire m'éclabousse les soirs de très grande culpabilité.
Merci, Cécile Coulon. On est au lendemain du marché de la poésie qui s'est tenu à Paris avec le Québec comme pays, région invitée d'honneur. Jean-Baptiste Parra, poète et directeur de la revue littéraire Europe, disait « Nul profit commercial immédiat ne pouvant s'attacher à son destin, la poésie contemporaine serait vouée à se marginaliser chaque jour un peu plus. Vous êtes un certain nombre à vous battre contre cette marginalisation tout en essayant de préserver la particularité de cette écriture. » C'est aussi en tout cas l'analyse qu'en fait peut-être l'invité de la deuxième partie de la Grande Table, Annie Lebrun, qui dans son nouvel essai évoque l'enlaidissement du monde et la mainmise de l'argent sur tous les territoires du sensible. La poésie, puisqu'elle en écrit aussi, sera-t-elle pour elle un des derniers remparts à préserver? Nous lui poserons la question dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup Jean-Marie Glaise. Trouvé ici vient de paraître au Seuil. Merci Cécile Coulon. Les Ronces vient de paraître au Castor Astral.
Merci à vous.